Bienvenue sur Allegre FM 93.1, je suis Card l'homme du 92, vous écoutez Championne, votre émission sur le sport féminin. Nous découvrirons ou redécouvrirons une légende de sa discipline. Eh ben non, spoiler, ce soir c'est une émission spéciale, nous sommes l'été, on parlera de sport mais de sport au pluriel. Oui, c'est une émission un peu spéciale, c'est la 21e, c'est le break de l'été. Oui, ce n'était pas la dernière la semaine dernière, puisque c'est la nouvelle cette semaine prochaine. T'as vu, je répète bien les mots. Alors bien sûr, je serai accompagné de quelqu'un d'important, mais ça on va en parler dans quelques secondes, car l'été sera chaud dans les t-shirts et les maillots. L'été sera chaud de la Côte d'Azur à Saint-Malo. Alors, je reprends la même vanne que la semaine dernière, j'avais envie. Donc, on va parler des 19 sports vus dans la saison. Sinon, on aura 19h. 19 portraits de légende, bien sûr. Et enfin, on parlera du sport féminin en général. Et avec moi, j'ai Sandrine, dit la dresseuse d'animaux sauvages et agressifs du Limousin. Ça va, Sandrine?
Ah, je déteste ce sobriquet. Je sais pas d'où tu l'as sorti, mais.
Ça va ou pas?
Non, c'est bizarre.
Mais est-ce que ça va, toi?
Ah, moi, ça va.
Ah, merci. Allez, musique, s'il vous plaît. Chers auditeurs et auditrices, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons donc parler de tous les sports évoqués dans l'émission championne de cette saison. Oui, c'est le best-of numéro 2. Préparez-vous, il y en a pas mal. Vais-je faire une interro surprise? Vais-je interroger Sandrine et lui dire quels sont tous les sports qu'on a vus cette saison? Je la regarde du coin de l'œil.
Non, ce serait bien que tu ne le fasses pas.
Je vais quand même les citer. Cette saison, on a parlé de basketball, de moto, de football, de tennis, d'athlétisme, 400 mètres, 200 mètres, de natation, de gymnastique, d'escrime, de cyclisme, de badminton, de rugby, de MMA, de patinage artistique, de judo, de course de haies, de montgolfière, de VTT, de rallye et de handball. Eh, c'est pas mal, hein? Ah là, ça c'est du best-of. On était très occupés cette saison. Seconde partie, nous parlerons des portraits de légendes. Il y en a un paquet aussi, 19 au total. Vais-je les citer maintenant? Non, je les citerai tout à l'heure. Mais il y a eu Marie-Josée Pérec, Megan Rapinoe, Amélie Mauresmo, Michel Mouton, Simone Biles, Laure Manoudou, Pauline Ferrand-Prévot et j'en passe. Dans la troisième partie, on parlera du sport féminin et pourquoi on a fait l'émission avec Sandrine. Comme ça, elle expliquera pourquoi elle est là, pourquoi elle est prise en otage plusieurs semaines le vendredi.
Exactement.
C'est important. Alors,
s'il vous plaît, venez m'aider.
Mais d'abord, auto-promo. Alors, vous connaissez le rendez-vous en direct de l'émission le vendredi de 19 à 20h, mais aussi le mardi en rediffusion de 10h à 11h. Cet été, on prend une pause et on reviendra en direct mi-septembre. Mais vous inquiétez pas, entre-temps, il y aura des émissions spéciales que vous pourrez entendre tous les vendredis, quand même, de 19h à 20h, et en rediffusion de la rediffusion le mardi matin de 10h à 11h. Et ça, c'est beau. Vive la technologie. Donc, si vous êtes coincé quelque part avec nous, pas de problème. Vous pouvez chercher Allegre FM sur Google, bien sûr. Cherchez Allegre FM Podcast, cherchez l'émission championne. D'ailleurs, vous avez plein d'autres émissions sympas, l'huile sur le jeu, cappuccino, jazzland, au fil des pages, chute libre et j'en passe, bien sûr. D'ailleurs, on m'informe dans l'oreillette que l'épisode 19 sur Catherine Lunde vient d'être mis en ligne, et ça c'est beau, et ça c'est grand. Et bientôt, l'épisode du Best of 1 sera en ligne, bien sûr. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, @championne_l'émission. On va prendre un petit instant, mais déjà, comment ça va cette semaine, Sandrine?
Bah écoute, ça va. Ça va un peu mieux parce qu'il commence à faire un petit peu plus frais.
Ah.
Donc, et ça reste malgré tout encore un peu sommaire, parce que chez nous, il fait encore chaud, mais le temps que les maisons se refroidissent, mais dans l'ensemble, ça va.
C'est vrai qu'on a subi une vague de chaleur assez exceptionnelle. On a passé les 40 degrés, alors que l'année dernière, les 40 degrés avaient été passés en mi-juillet. Là, on l'a eu début juillet. Un peu d'avance, bien sûr. Alors, évidemment, cette semaine, c'est Sandrine, mais n'oublie pas, on fait coucou à Elodie et Shaima qui reviendra, bien sûr. Shaima qui était là la semaine quand on a parlé des handball. Et bien sûr, les questions de la semaine. Merci à Sandrine d'avoir trié ses 9999 emails.
C'est du boulot, hein, faut pas croire, mais... Ouais.
Dont 9998 spam. Alors, le message cette semaine, le message vient de Côte d'Azur 06. C'est moi où l'été sera chaud dans les t-shirts, dans les maillots. Mais c'est le même message que la semaine dernière? Oui, spoiler, oui. Si vous avez suivi, effectivement. Et on va en parler. 33-35 degrés sur la capitale, c'était épouvantable. Mais sinon, le réchauffement climatique, comment se porte-t-il? Très bien, apparemment. Ça n'a pas l'air de le déranger, de nous cuire tels des chipolatas. Alors, cette semaine, on a sué des oreilles et de tous les orifices. Oui, tous les orifices. Mais selon un article du Monde daté du 25 juin, donc avant la grosse canicule qu'on a eue ces jours-ci, depuis 20 ans, le cumul des jours de vigilance canicule par département, tout niveau confondu, le vert, le orange... Non, il y a jaune avant.
Il y a jaune, ouais.
Ah, bien joué. Vert, jaune, orange et...
Rouge.
Bravo, rouge. Quand vous voyez que c'est rouge sur un météo, préparez-vous, ça peut être compliqué, il faut vraiment tendre l'oreille. Donc... Le cumul des jours de vigilance, tout niveau confondu. Aïe, 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 vous allez être très étonnés. sachez qu'entre 2004 et 2013, c'était 746 jours, d'accord ?
Ce qui est énorme.
Voilà. Eh bien, entre 2014 et 2024, on est à 4111 jours. 5 fois plus. Au 25 juin, je le rappelle, donc avant la grosse montée à Paris de 40 degrés. La compilation de l'ensemble des bulletins de vigilance canicule montre une exposition intense d'une large moitié de la France, s'étendant du sud de la diagonale Agen-Strasbourg, avec un épicentre au département du Rhône. Oui, le Rhône, c'est très très chaud, je ne le savais pas, mais c'est le plus chaud de France, avec 174 jours de canicule depuis 2004, dont 4 en alerte rouge. Le Rhône est de loin le département le plus touché.
La Bretagne le moins.
Exact. Mais t'as vu, c'est résistant.
Ça a toujours été. Ça remonte le truc, c'est des Gaulois dans Astérix ou Obélix.
Les irréductibles.
Alors eux, ils... Non.
C'est fou, la Bretagne.
Ils veulent pas de la chaleur. La chaleur, elle s'arrête. Elle fait non, pas là, on peut pas y aller.
La Bretagne armoricaine, pardon, comme l'Empire romain.
Ah oui, non.
Ça marche pas. C'est assez fou. Le seuil de 40 degrés a été dépassé pour la première fois cette année, le mardi 24 juin, c'était pas il y a pas longtemps, à Moulins et Beaucelles, dans l'Hérault. 40,2 degrés enregistrés, précise Météo France. Une barre symbolique qui, en 2024, avait été franchie mi-juillet. Pas de vanne, on vit dans un poêle à frire, nous sommes des œufs.
Même si je pense que tes températures, en plus, elles sont à l'ombre, elles ne sont pas au soleil.
Oui, ça c'est fou. Alors, que faire? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Parce qu'il faut des bons réflexes. Eh ben oui. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, surtout ne pas boire de l'eau. Vous ne faites pas ça. C'est très important. Il faut vraiment boire, rester au frais chez soi ou dans un lieu frais proche de chez vous.
Et si possible, boire de l'eau tempérée et non de l'eau froide.
Très intéressant, j'allais y venir, mais bien, tu fais bien, tu as anticipé. Alors, dans les pièces fraîches, vous avez évidemment la piscine, vous avez les cinémas, la bibliothèque, et vous avez aussi des pièces ombragées à votre travail. N'hésitez pas, c'est très important. Il est conseillé de plutôt sortir en fin de soirée. Donc, il n'est pas conseillé de sortir entre midi et 16 heures, là où il fait le plus chaud. À part, si vous voulez, un malaise, bien sûr. Privilégiez les activités douces, mangez frais et équilibré, limitez, ça je ne le savais pas, le café, le thé et l'alcool. Pourquoi ?
Ah. Bah, je crois que c'est des excitants.
Non, ça déshydrate.
Ah, je savais pas.
Ah, moi non plus. Mais l'alcool, ça m'est revenu qu'effectivement.
Mais je savais que pour le coup, quand j'essayais de l'eau tempérée, parce que en fait, plus vous buvez, enfin, il y a des pays où potentiellement ils ont plus de chaleur que nous, ils boivent pas du thé, mais enfin, en tout cas, des boissons chaudes.
Tout à fait.
Et du coup, ça réhydrate beaucoup plus.
Ouais,
que de boire de l'eau.
Effectivement, mais après ça dépend quelle boisson, mais sachez effectivement la théine, la caféine et l'alcool, pas forcément une bonne idée en cas de grosse chaleur.
Un chocolat chaud par exemple,
voilà,
ou quelque
chocolat,
chose
oui.
comme ça.
Chocolat très bon. Alors, et autre information très importante, si vous faites partie des personnes à risque, personnes âgées, personnes handicapées, vous ne le saviez pas, moi non plus, vous pouvez vous inscrire sur le registre de votre commune pour recevoir de l'aide pendant les fortes chaleurs estivales. Ça existe, c'est vrai, n'hésitez pas, c'est très important. Et évidemment, vous faites très attention, si vous devez aller faire du sport par exemple, vous évitez, parce qu'il faut savoir que quand il fait chaud, il faut à tout prix refroidir l'organisme. Pendant les périodes de grande chaleur, on peut perdre jusqu'à 2,5 litres de sueur par heure. Je déconne pas. Donc du coup, si vous faites du sport, vous faites ça plutôt en soirée, vous évitez. Il faut essayer toujours de boire, en cas de sport, un demi-litre d'eau par demi-heure, si jamais vous êtes dans un effort. Mais vous évitez l'effort entre midi et 16 heures. Là, je parle des gens qui ont envie d'aller courir, par exemple, le soir ou faire quelque chose. Il faut vraiment faire très, très attention.
Ça ne viendrait même pas à l'idée d'aller courir avec les fortes chaleurs. Mais...
Il y a une rumeur comme quoi quelqu'un à cette table est parti faire un footing à 29 degrés. Il a tenu 35 minutes et il s'en est pas remis encore. Voilà. En tout cas, faites très attention. Buvez beaucoup d'eau, évitez le soleil de plein fouet, prenez très attention aux animaux aussi, n'hésitez pas à leur donner un petit bol d'eau, vous pouvez aussi prendre des je sais pas comment ça s'appelle, tu sais quand on prend une glacière et qu'on met des packs de glace dedans, tu sais, en plastique là.
Bah, c'est une glacière.
Voilà, très bien. Prenez vos glacières, mettez-les dans les serviettes et vous les mettez pour les animaux. Il ne faut pas oublier les animaux, les enfants, les personnes âgées, les handicapés qui n'ont pas forcément accès aux infrastructures. Voilà. À ce moment-là, vous faites semblant de m'applaudir et merci de m'avoir écouté. Merci.
Je voudrais juste rajouter quelque chose,
si
tu permets. C'est juste que je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas si longtemps que ça, avant ou peut-être au milieu qu'on a eu les fortes chaleurs, je ne me souviens plus trop. Mais du coup, on a reçu, dans certaines régions, une alerte de la part de nos assurances pour nous dire, attention, il va y avoir de l'orage, potentiellement de la grêle ou ce genre de choses. Et là, c'était une vigilance, il fallait faire attention, c'était en rouge, oh là là, oh là là, oh là là. Sauf que le problème, c'est que, ok, vous faites attention, on fait en sorte, on met les choses en place pour faire attention, et c'est normal. Mais le problème, c'est que quand il y a une alerte... vigilance rouge pour la canicule, il n'y a rien qui est mis en place pour justement soutenir les gens qui pourraient être en difficulté ou même les sociétés pour leurs employés, mettre de l'eau à disposition, faire en sorte, enfin voilà, mettre des choses en place parce que ça ne viendrait même pas à l'idée de rien faire alors qu'en fait il y a une alerte. Oui. Et qu'elle est rouge, en fait.
Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Je vais répondre sur deux trucs. Déjà, le premier, eh bien, les assurances te parlent en cas d'orage parce que ça coûte de l'argent. Parce qu'il y a des assurances, accidents de voiture, maison, arbre sur maison. Donc là, forcément, pour eux, faites attention. Voilà. Par contre, évidemment, si on meurt de canicule, ça n'a pas l'air de les intéresser, parce qu'ils ne doivent pas beaucoup débourser d'argent, j'imagine. Néanmoins, ce que tu as dit est très important. J'avais oublié de le dire, mais tu as raison. Si vous êtes au travail, vous avez tout à fait le droit de demander des pauses fraîcheur. Vous avez tout à fait le droit de demander à votre employeur de mettre à disposition des bouteilles d'eau. C'est tout à fait réglementaire et c'est tout à fait dans la loi parce que ça fait partie des conditions de travail. Donc vous ne pouvez pas faire votre travail si vous êtes mort de soif ou mort tout court. Donc forcément, demandez un peu d'eau. Et ils sont dans l'obligation de vous en fournir.
Oui, bien sûr, parce qu'en plus, il y a la déshydratation, tu l'as parlé, mais il y a aussi le fait, je vois les employés qui travaillent à la construction, qui sont dans la rue, plein de canières comme ça, il y a aussi l'insolation. Donc,
l'insolation, risque d'évanouissement.
Plein de choses.
Il y a aussi, et ça c'est vrai parce que j'en suis victime, lorsqu'il y a des très grosses chaleurs, vous pouvez perdre votre calme beaucoup plus vite. C'est mon cas. Je te rappelle.
Déjà que les Parisiens, il ne faut pas grand-chose pour qu'ils s'énervent. Alors imagine avec la chaleur.
Moi j'avoue, la chaleur, ça me fait perdre ma patience. Donc vraiment, faites très attention les uns aux autres. Alors certes, ça a pris un peu plus de temps d'habitude que d'habitude c'est édito, mais je pense que c'était important puisque nous allons nous retrouver dans une situation où il fera de plus en plus chaud, de plus en plus longtemps, de plus en plus de fois dans l'avenir. Donc sachez que vous avez le droit de boire de l'eau. C'est important. L'eau, l'air, la vie. Ensuite, reprenons. Alors, combien de sports a-t-on évoqué dans les 19 émissions?
19.
Bravo, bonne réponse. Elle est extraordinaire, wow. Sandrine. Non, on a parlé effectivement de 19. Et là, dans cette partie, pour les minutes qui nous restent, on va parler des anecdotes sur les sports qu'on a évoqués qui nous ont le plus marqué. Alors toi, tu en as peut-être. Moi, j'en ai.
J'ai pas cherché les anecdotes parce que je vais te dire une simple chose, j'ai écouté toutes les émissions, mais je retiens pas. Donc ça sert à rien. Sinon, il aurait fallu que je les réécoute tous avant de faire cette émission-là, ça aurait pris un petit peu de temps.
19h.
Voilà. Donc du coup, moi j'ai juste pris les sports que j'avais trouvé intéressants et sur lesquels j'avais appris des choses que je ne savais pas. Et voilà, j'ai pas pris les anecdotes. Moi j'ai juste apprécié parler de la montgolfière parce que je trouvais ça fou.
Purement aussi.
Au-delà de la personne qu'on a mis en avant, c'est juste, enfin, avec qu'ils n'avaient pas grand-chose, les essais qu'ils ont faits, c'était hyper dangereux. Enfin, voilà, il y avait tout plein de choses qui étaient mis autour. Je trouvais ça, j'ai appris plein de choses et c'était fun. Le VTT, parce que.
Alors attends, je fais une parenthèse sur la montgolfière.
Ouais.
On avait parlé de Marie-sur-Couffe, mais surtout, c'est très important parce que j'ai eu des infos, j'ai cherché. Alors sachez, mesdames et messieurs, qu'il y a eu ce vol extrêmement célèbre devant le bienveillant roi Louis XVI et la cour qui ont emporté un canard, un coq.
Oui, c'est vrai.
Et un mouton qui sont envolés à 480 mètres et sont retombés en douceur dans la forêt de Vaucresson à 1700 mètres de son lieu de départ, ce qui est quand même fou. Eh bien, il faut savoir que l'un de ces trois animaux n'est jamais arrivé à bon port. Le coq, on ne sait pas ce qu'il est devenu.
Il a dû s'envoler.
Il est parti avec eux, il n'était pas dans la nacelle au retour.
Il y en a qui ont fait...
Ben, le mouton et le canard n'ont jamais parlé. Je t'en prie, tu peux envoyer la suite.
Et juste après, voilà, le VTT, parce que on parle souvent de vélo sur route ou ce genre de choses, et moins du VTT, donc c'était plutôt cool, et pour le coup, je l'avais vu aux Jeux Olympiques, donc c'est quelque chose qui m'avait beaucoup impressionnée, et j'ai appris plein de choses, et la course de haies que je trouvais sympa, parce que je trouve ça hyper barbare de sauter par-dessus des trucs, en fait. Parce que c'est super haut, c'est pas un truc, un petit truc, tu vois, c'est super haut.
1m20, 1m30
dessous. Et moi, ça me stresserait de fou de me dire que je peux pas courir correctement, qu'il faut que je compte mes foulées pour que je passe par-dessus, sinon je peux me casser la figure. Non.
T'as raison, je crois que les garçons 1m10, mais les filles, je m'en rappelle, c'est 80 cm. Donc faut que tu fasses ta foulée, tu sautes 80 cm, 80 cm, 80 cm, c'est assez.
Je comprends, c'est un super beau sport, hein, je remets pas ça dessus, parce que du coup, il y a beaucoup de maîtrise et tout ça à avoir. Mais j'avais trouvé ça intéressant, parce que pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui m'impressionne et que je ne ferai absolument pas, parce que ça me. Bah voilà, ça me stresse. Rien que d'en parler, ça me stresse en fait.
Oui, parce qu'en fait, comme tu as dit, il faut vraiment calculer ses foulées. Mais pour calculer ses foulées, il faut prendre en compte l'envergure de son propre corps avec sa propre, comment dirais-je, vitesse, mais surtout la taille de vos jambes.
Ouais.
Donc il y a vraiment tout un rythme à faire pour sauter chaque haie et pour accélérer et tout. C'est vraiment un sport très, très technique.
Bah c'est surtout qu'ils ont, ils en ont plusieurs des haies. Ouais. Donc en fait, il faut tout le temps compter. J'aime pas les maths. Je compte pas les marches quand je monte. Donc
Non, c'est vrai. Et c'est bien que tu parles du VTT. Parce que moi, ce qui m'avait impressionné, c'est la manière dont a été inventé le VTT. Et ça, c'était complètement fou. Donc, du coup, ça a été inventé en Californie, dans les pentes du mont Tamalpais, dans les années 70, lorsqu'un groupe de passionnés décide de modifier leur vélo pour aller à fond la caisse sur le mont Tampala, qui est situé au nord de la baie de San Francisco, avec des pointes à 785 mètres d'altitude, mesdames et messieurs. Donc, je résume, un groupe de copains californiens, sans doute pas vraiment à jeun.
Hein. Il y a des chances.
Se disent, on va modifier nos vélos et on va descendre à toute vitesse, tout droit, dans la montagne. Vroom.
Et là, tu dis, sans casque peut-être.
America.
Avec le drapeau, tu sais.
Voilà, sans casque, t'as raison en plus, le pire. Bah ils n'ont pas de casque, ils n'ont pas de protection, ils sont en short à l'arrache, comme ça, comme des oufs. Et vraiment, ça m'avait impressionné parce qu'ils ont inventé, ça s'appelle le mountain bike, littéralement.
Je pense qu'ils n'avaient pas bu que. Ils avaient pas...
pas que de l'eau.
Pas que, pas de, que l'eau, de l'eau et surtout peut-être pas que bu non plus.
Voilà. Et pour le coup, c'est Tom Ritchey, un autre membre de ce groupe, qui lance en 1979 la première fabrication en série de VTT en créant la fameuse marque Mountain Bike. Et ça, j'ai trouvé fou cette anecdote.
Qui existe encore, hein, je crois.
Oui, j'ai vu, elle est très chère, très chère. C'est le top du top. Mais moi aussi, pareil, j'avais adoré faire l'émission sur le VTT parce que j'aurais jamais cru que ça avait été inventé comme ça, tu vois. Et que c'était si récent, tu vois. C'est vraiment récent, les années 70.
C'est ça, puis c'est surtout hyper. Leurs courses sont hyper impressionnantes, en fait. Parce que à regarder comme ça, tout le monde a déjà fait un peu de VTT dans la forêt ou ce genre de truc. Mais en fait, c'est hyper technique. C'est au niveau du cardio, c'est dingue. Et ça en fait un sport hyper complet parce que du coup à la fois ils sont en danseuse donc debout sur le vélo et tout ça donc ça fait travailler les mollets, ça fait travailler plein de choses et c'est vraiment impressionnant. Vraiment.
Non, c'est vraiment une tuerie. Et d'ailleurs, j'invite les gens à essayer au moins une fois le vrai VTT, c'est-à-dire comme tu as dit sur les routes de montagne, dans le gravier au milieu des arbres, parce que la plupart des gens
dans la boue,
font sur la route et disent moi c'est vite fait. Je l'ai fait. Je suis marqué à vie. Je vous laisse retourner sur l'épisode. Mais moi personnellement, je marchais à côté du vélo tellement j'avais peur dans les descentes parce que ça allait trop vite.
Bah, le VTT, à la base, il a été créé pour aller dans ce genre de terrain et non sur la route. Parce que sur la route, il y a les vélos de route.
On est d'accord. Et c'est créé par des gens peu à jeun, complètement fous, en Californie. Donc on est d'accord, c'est vraiment un sport de dingue. Voilà, merci.
Ils ont inventé un truc de ouf parce que ça existe encore, cette marque, t'imagines. Enfin,
la marque existe.
C'est parti d'un truc complètement loufoque et ça en a fait quelque chose de magnifique puisque le sport en soi, le VTT. Ah,
le truc est zinzin. Alors là, rapidement, vraiment hyper rapidement, je vais essayer de la placer avant la musique. Il faut savoir qu'on a fait le tennis et enfin on a parlé de Suzanne Lenglen. Tu vois, Suzanne Lenglen qui a révolutionné son sport, c'est-à-dire que grâce à elle, les tenues ont changé pour une histoire plus ample au-dessus du genou. Elle est arrivée sur le court de tennis avec magnifique manteau de vison et tout, elle a vraiment changé son sport. Et en fait, j'ai une anecdote, elle a 27 ans, elle va arrêter sa carrière et quand elle arrête sa carrière, elle est au top depuis 6 ans, elle gagne tout. Et c'est la première, en faisant des recherches pour l'émission, c'est la première à avoir eu ce qu'on appelle vraiment la charge mentale et la pression des médias. Elle était très très célèbre, elle était demandée par tout le monde et du coup, elle n'arrivait plus à supporter. Elle avait une santé fragile, elle allait souvent voir le médecin. Elle était sous antidépresseur, elle vivait vraiment très très mal ce qui lui était arrivé. Et en fait, elle arrête sa carrière sur un truc complètement fou. C'est à la 27 ans, elle doit faire Wimbledon, qu'elle a déjà gagné 6 fois, donc vraiment elle est au top. Et changement de programme, la reine d'Angleterre doit venir la voir jouer. On est en 1926, donc c'est la reine, tu vois, bien avant Elisabeth. Elle doit venir la voir jouer et elle adore Suzanne Lenglen. Et le truc, c'est qu'on va changer le calendrier pour la reine et Suzanne Lenglen va péter un plomb. Et d'ailleurs, ça a fait un scandale national. Hein. On a dit qu'elle était prétentieuse, qu'elle n'était pas venir voir la reine. La reine va attendre dans le cours central vide. Suzanne Lenglen ne va jamais venir. Elle est dans sa loge en train de pleurer. Elle est en panique parce que ça lui change toute sa routine, qu'elle n'est pas bien, qu'elle ne se sent pas de faire ce match-là. Et c'est son partenaire de double mixte qui va venir s'excuser auprès de la reine en présentant ses excuses. La reine ne va pas donner suite et quand on va la déplacer son calendrier le lendemain, elle va faire son match de simple et son match de double qu'elle va gagner. Et elle va gagner Wimbledon dans un silence glaçant. Et c'est ça qui va lui faire arrêter sa carrière.
Bah, le problème, c'est qu'à à cette époque-là, en fait, tu suivais pas une psychanalyse. Oh là là, t'allais pas voir un psy, c'est le plus court. Parce que ce soit psychiatre ou psychologue, t'allais pas les voir parce qu'en fait, déjà, santé mentale, on n'en parlait pas. Donc en fait, la seule solution qu'on te donnait, c'est des cachetons. Et le problème, c'est que ça crée une dépendance et puis ça t'aide pas vraiment. Et si on t'entoure pas, surtout, c'était dans les années 1900. Donc,
1926.
En fait, là, c'est...
Et après,
elle c'est les trucs de la femme, elle est hystérique, elle c'est se prend pour je sais pas quoi, alors qu'en fait, elle a un vrai trouble.
Mais je pense qu'on fera un portrait d'elle, pour le coup, parce que c'était vraiment ouf, et il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur cet événement. En tout cas, mesdames et messieurs, on va se détendre avec un petit morceau de musique. Suzanne Lenglen ne restera jamais dans mon cœur. Vive les femmes, vive le tennis, vive la France.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Bonjour à nouveau, auditrices, auditeurs. Je suis toujours Cad, l'homme du 92. Nous sommes toujours sur Aligre FM 93.1. Vous êtes bien dans l'émission championne qui traite du sport féminin. On vient d'écouter « Je veux du soleil » de « Au petit bonheur ». Ça te rappelle ta jeunesse, hein, Sandrine ?
Ouais, mais c'est surtout que j'espère que personne n'a écouté parce que j'en veux plus de soleil. Si vous étiez une petite pause de soleil, ça me ferait du bien, tu vois.
Et aujourd'hui, je suis Cad, alias la climatisation du Gévaudan. On va demander à Sandrine, la redoutable cuisinière des Pouilles, comment ça va et comment on cuit des pâtes. Tu me le dis souvent d'ailleurs.
Alors si tu ne les fais pas toi-même, il suffit juste de lire ce qui est écrit sur le paquet.
Ah, c'est ce qu'elle me dit tout le temps. Quand je dis c'est combien de temps, elle me dit bah, lis sur le paquet, c'est écrit. Voilà. Ça qui est bien avec les pâtes, c'est que c'est écrit dessus.
Bah,
et on va parler de nos championnes de cette année. Je cite les 19 noms dont on a parlé. Céline Dumerque, Sarah Lesito, Megan Rapinoe, Amélie Mauresmo, Marie-Josée Perec, Laure Manaudou, Simon Biles. T'as vu, je le dis bien.
En fait, que tu mettes un accent sur Simone Biles, pourquoi pas. Mais Marie-Jo, elle est française, donc Marie-Jo Perec.
D'accord. Laura Flessal, Janelle Longo, Carolina Marine, Ilona Maher, Amanda Nunes, Souria Bonali, Clarisse Agbenienou, Sidney McLaughlin, Marie Surcouf, Pauline Ferrand-Prévot, Michel Mouton et Catherine Lund. Elle, comme elle est norvégienne, je mets un accent allemand, ça n'a rien à voir, mais voilà. Alors, la semaine dernière, on a parlé de Pauline Ferrand-Prévot, d'Ilona Maher, de Clarisse Agbenienou ou de Caroline Marine et de Michel Mouton. Et cette semaine, on va parler des outres. T'en as une dont tu veux parler ?
Moi, j'en ai mis 5.
Bah, moi aussi, mais vas-y, je t'en prie, tu commences.
Alors, moi déjà, ça paraît évident, mais l'Ormanodou, parce que c'est un peu déjà, voulant parler d'elle et pour le coup de la natation, que je suis venue ici. Donc, quand même, c'est au-delà du fait que c'est une athlète très importante, c'est ce qui a permis que je sois là. Donc, il fallait quand même un petit peu que j'en parle.
T'as raison.
Et j'adore cette athlète et... personnellement, moi, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et donc automatiquement, faire une émission sur elle, ça m'a beaucoup plu.
Oui, alors Laure Manodou, j'ai beaucoup apprécié aussi faire l'émission puisque c'est une athlète que j'apprécie énormément. Alors déjà, elle est toujours entre guillemets sous les feux des projecteurs grâce à son frère, Florent Manodou, qui vient de faire ses derniers Jeux Olympiques, je crois.
Oui, c'est ses derniers, ouais.
Voilà. Et mais comme il a participé à Danse avec les Stars... Il reste aussi populaire, de Florent Manodou.
Il est populaire. C'est encore autre chose. Moi, je préfère parler des femmes qui sont populaires dans le sport plutôt que des hommes. Mais je pense qu'il a permis... Enfin, en fait, je pense qu'on l'aurait connu malgré que l'or existait ou non.
Ouais, mais moi, je fais le lien, justement, et c'est bien ce que tu soulignes, parce qu'on a l'habitude de mettre en avant plutôt les femmes que les hommes, puisque les hommes ont déjà des émissions et des dizaines d'articles, c'est pas un problème. Mais là où ce que j'apprécie beaucoup, et je fais le lien avec Florent Manodou, c'est parce que c'est l'or qui l'a entraîné. Et ça, je trouve ça cool, parce qu'à un moment donné, elle a pris vraiment cette place de coach pour vraiment l'aider. Et je pense aussi que le fait qu'elle a ce qui, moi, trouve le pire et quel lien avec Marie-Josée Pérec, c'est-à-dire un traitement des médias qui est
horrible,
agressif et oppressif au plus haut point du monde, fait qu'elle a bien, je trouve, travaillé pour que son frère ait une bonne image. C'est-à-dire que son frère, il n'a pas une mauvaise image et il n'a pas eu trop de galères avec les médias. Et je pense que sa sœur n'y est pas pour rien, tu vois.
Bien sûr, je pense qu'elle a dû, l'aider là-dessus, ne serait-ce que déjà de lui mettre en place un coach mental qu'elle n'a pas pu avoir. Mais par contre, je te rectifie juste 2 secondes. Laure, elle a aidé sur ce côté-là et je ne doute pas le fait qu'elle ait dû l'aider dans son entraînement. Mais c'est le grand frère qui a entraîné Laure et qui a entraîné le petit frère, en fait.
Bah, elle lui a donné quand
même. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que c'est le grand frère qui est entraîneur. Enfin, c'est une histoire de famille. C'est-à-dire qu'en fait, on connaît ces deux nageurs-là, mais le grand frère qui est entraîneur est aussi nageur.
Alors, tu vas me dire que la rumeur de Peter Balouchon, qui a dit que dans le petit bassin de la piscine de Colombes en 1999, et qu'elle lui fait « Mets des bouées, Florent !» C'est faux. C'est ça que vous êtes en train de me dire, madame ?
Non, je suis en train de te dire qu'effectivement, elle a dû l'aider sur pas mal de choses. Ouais, mais je pense qu'en termes d'entraînement, c'est le grand frère qui les a, bah, pour le coup, qui a fait leur entraînement aux deux. Même si, pour le coup, le petit frère, il a été aux États-Unis pour être entraîné avant qu'il fasse les JO là, de cette année. Mais alors, je pense qu'elle l'a beaucoup aidé sur la partie coach mental, sur la partie se fermer vraiment dans sa bulle, vraiment avec les journalistes et tout ça. Je pense que oui, là-dessus, elle l'a aidé. Évidemment, mais je voulais juste dire qu'elle l'a pas non plus entraîné.
Oh là là, toi. Pour moi si. Laissez-moi rêver.
Mais c'est très familial, donc pourquoi pas. Mais...
Non, je pense qu'elle a eu de l'influence. Après, je suis d'accord avec toi. Elle était peut-être pas forcément officiellement. Et puis en plus, quand tu es le petit frère, la petite sœur, le fils d'eux de quelqu'un d'un grand nom, généralement, t'as envie de faire ta propre histoire. Donc tu vas écouter jusqu'à un certain point les conseils de tes aînés qui sont passés avant toi, généralement, tu vois.
Bien sûr.
Donc ça, je suis assez d'accord. Après, oui, pour moi, Laure Manodou reste pour moi une craque déjà sur son palmarès que je vous invite à aller voir, qui est fou.
Ah oui.
Mais aussi, pour les JO, l'année dernière, on l'a vu aux côtés de Marie-Josée Pérec sur le plateau de Léa Salamé. Et j'ai beaucoup apprécié le fait qu'elle soit là avec Marie-Josée Pérec parce que c'était une image forte à mon goût, pas assez mise en avant, qui était deux personnes qui ont été torturées mentalement par les médias dans des traitements fous, c'est-à-dire Laure Manodou avec la sextape qui avait filtré, ses photos intimes qui ont filtré dans la presse alors que ce n'était pas le propos et ça n'avait rien à voir avec sa carrière. Et d'un autre côté, Marie-Josée Pérec qui s'est fait littéralement agresser et demander des comptes alors que c'était juste une athlète française et pas une femme politique. Et le fait qu'elle soit là pour les JO, à parler sport sans avoir de rancœur, en fait, par rapport aux médias, je trouvais ça hyper classe. Parce que c'est quelque chose dont je suis incapable, mais je trouvais ça très, très classe.
Bah, en fait, elles étaient là, elles étaient humbles.
Ouais.
Donc, du coup, et surtout, ce que j'ai apprécié, c'est que Laure, on lui a demandé de faire les commentaires pour les épreuves olympiques de natation. Et je trouvais ça génial parce que, peu importe le sport, là, pour le coup, on parle de Laure Manodou, mais c'est arrivé dans d'autres sports que, du coup, des anciens athlètes y fassent les commentaires. Et je trouve que c'est beaucoup plus percutant et on apprend beaucoup plus de choses parce que, du coup, ils ont les termes, ils ont les explications parce qu'ils ont vécu ce genre de choses. Quelqu'un qui parle de foot, mais qui a jamais mis un pied sur un terrain et qui a jamais joué au ballon, je suis désolée, mais en fait, il sait pas ce qui se passe. Donc, en fait, il parle, mais il parle de choses qu'il ne connaît pas. Donc, je trouvais ça très sympa dans d'autres d'autres sports, ça a été fait aussi, je trouve ça vraiment sympa.
L'escrime, le judo, mais surtout, comme tu dis, je rebondis là-dessus, et après, je vais parler d'une autre sportive, l'émotion. L'émotion
aussi, ouais.
Que ces anciens sportifs devenus consultants arrivent à transmettre à nous, téléspectateurs, ouais. Parce qu'ils vivent quelque chose, parce que comme tu l'as dit, ils connaissent les entraînements, ils connaissent les coulisses, ils savent ce que c'est de faire une finale de championnat du monde olympique et autres, qui parfois ont pu gagner ou parfois sont passés très près d'une médaille. Ouais. Et en fait, c'est toute cette émotion qu'ils ont qui font que ça transporte le téléspectateur. Et je trouve ça diablement plus efficace à regarder avec eux qu'avec, comme tu as dit, des gens qui connaîtront pas ces émotions parce que c'est juste des observateurs.
Puis et surtout, ça permet aux gens de s'intéresser véritablement au sport et pourquoi pas de s'inscrire par la suite, en fait.
C'est ça.
Donc ça crée créer des choses chez les gens par rapport à, comme tu dis, les émotions. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait mettre beaucoup plus en avant parce que des athlètes, on en a plein en France.
Ouais.
Donc, c'est vraiment quelque chose que je trouve sympa.
Oh oui, et puis comme je dirais, on a des athlètes français extraordinaires, même si on n'est pas un pays de sport, nous avons des athlètes de fous. Moi, j'ai adoré parler de Céline Dumerc, carrière professionnelle quand même pendant 23 ans au basket. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a joué au basket pro au plus haut niveau pendant 23 années.
Moi, c'est quelqu'un que je connaissais pas parce que je regarde pas le basket et j'ai apprécié la découvrir.
Bah, pareil, je connaissais juste parce que je savais que c'était la meneuse de l'équipe de France avec son numéro 9, mais j'en savais pas plus parce que j'avais vu effectivement les JO de Londres où ils étaient arrivés deuxième avec la médaille d'argent. Mais extraordinaire, 262 sélections entre 2003 et 2017, championne d'Europe 2019 avec l'équipe de France, médaille de bronze au championnat d'Europe 2011, médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Londres. Deux doigts de gagner avec elle, franchement. Elle a un palmarès complètement fou. Elle a fait une saison en WNBA. Si elle n'avait pas été blessée, je pense que son équipe aurait pu gagner le championnat. J'ai adoré son palmarès et en fait, j'ai été très étonné de voir qu'elle avait un palmarès plus de longévité, plus fort qu'un Tony Parker et que, comme tu as dit, on n'en avait jamais parlé. Et sur sa fin de carrière, elle a été justement consultante pendant les JO de Tokyo. Pour l'équipe de France, ce qui était cool, tu vois, pour France Télévisions. Et sur sa fin de carrière, elle a réussi à être coach et en même temps joueuse sur ses deux dernières saisons. C'est complètement fou. Certes, elle entraîne l'équipe, mais en même temps, elle peut jouer. Et elle a aidé l'équipe de France avant les JO. Donc, pour les championnats du monde, c'était elle, plus ou moins, la coach. Donc, elle a vraiment une carrière complètement dingue. Elle n'est pas si âgée que ça, parce qu'aujourd'hui, elle n'a que 42 ans et elle a joué jusqu'en 2023, donc elle a joué jusqu'à une quarantaine d'années. C'est très rare pour les sportifs, ce haut niveau. Donc moi, j'ai adoré découvrir Céline Dumerc plus en profondeur, en fait. Donc clairement, ça, c'était vraiment une émission que j'avais bien aimée. Est-ce que tu as quelqu'un d'autre ?
Oui, j'en ai quatre autres. Donc oui, vraiment très vite, même si pour le coup, c'est quelqu'un qui mérite beaucoup, mais c'est moi qui t'avais... demander si on pouvait faire un portrait sur elle, c'est Simone Biles, parce que je la trouve courageuse, je trouve que c'est une athlète incroyable, c'est l'athlète la plus, l'une en tout cas des athlètes les plus médaillées sur son sport, une maman, ce qu'elle a vécu, enfin, met plein de choses en avant, et je trouve que c'était important de parler d'elle par rapport à ce qu'elle avait vécu, et surtout de son palmarès, parce qu'il est dingue, en fait.
Ouais, je crois que c'est la plus titrée en
non, gym, c'est quoi. Pas la plus... Non, j'en avais parlé dans notre émission. Et c'est la deuxième, en fait, parce que du coup, ça en a une autre devant, mais pas grand chose. Et pour le temps de carrière qu'elle a fait, c'est juste phénoménal. Enfin, je voulais juste parler d'elle parce que je trouvais qu'elle méritait qu'on parle d'elle, vraiment.
Oui, et puis comme tu as dit, elle a une position très forte de cette afro-américaine, comme par exemple être chez Nike et dire à Nike salut.
Ouais, pour se mettre avec une petite marque.
Qui, selon elle, respecte plus justement les valeurs du sport, elle reste. Il y a vraiment un très symbolique, je trouve.
Oui, non, mais. Après, elle est arrivée à un niveau où elle peut se permettre de faire ce genre de choses. Et elle le fait, et surtout, elle le dit qu'elle le fait. C'est ça, en fait, qui est bien. C'est qu'elle aurait pu mettre ça sous silence, et je pense que Nike aurait préféré. Mais non, en fait, elle dit non. Moi, j'ai dit non pour telle chose, pour telle raison, et elle le met en avant. Et si ça plaît, ça plaît pas, c'est pas grave. Elle a rien à prouver. Elle est arrivée à un moment donné où elle a rien à prouver.
Non, très fort. Moi, quand on a parlé de tennis, j'ai bien aimé parler d'Amélie Mauresmo, bien sûr.
C'était mon troisième nom.
Ah bah parfait. Amélie Mauresmo, carrière de 1993 à 2009. On est quand même sur pareil, beaucoup, beaucoup d'années de carrière. 16 ans de carrière, exactement. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que déjà, dans sa carrière, elle a gagné un Open d'Australie et un Wimbledon la même année, en 2006, contre Justine Hénin, qui était sa pire rivale.
Justine Hénin, oui, c'est vrai.
Un jour, on pourra parler parce qu'elle aussi a un palmarès de fou.
Effectivement.
D'ailleurs, la plupart des trucs qu'elle a perdus, Amélie Mauresmo, c'est face à Justine Hénin.
Oui, c'est ça. Voilà. C'était soit l'une, soit l'autre. C'était, à cette époque-là, c'était vraiment un peu comme... un peu comme...
Monica Céleste et Figraf.
Voilà, c'est ça. En fait, de chaque fois, il y avait à peu près deux personnes et voilà.
Et c'était assez fou. D'ailleurs, on ne le dit pas assez souvent, mais elle a été, à un moment donné, Amélie Mauresmo, sur 2004, 2005, 2006, elle fait quatrième mondiale, troisième mondiale. En fait, pendant 3-4 années, elle est vraiment dans le top 3 des plus grandes joueuses de tennis du monde. Et on en parle peu. Et elle aussi, évidemment... Les médias. En 1999, alors qu'elle a 19 ans, elle déclare qu'elle est homosexuelle et les médias l'ont démontée. D'ailleurs, ouais. Tu te rappelles, il y avait cette fameuse caricature des guignols où on voyait Amélie Mauresmo avec des bras énormes et une voix grave. Elle en a vraiment souffert, hein. C'est vraiment déchiré la tronche.
Évidemment.
Mais aujourd'hui, elle est présidente du comité de Roland-Garros. Et ça, je trouve ça génial.
Oui, 2021. Oui, parce que moi je la connaissais parce que du coup elle vient du coin où j'ai grandi. Donc du coup nous c'était un peu la star de chez nous et du coup on la mettait beaucoup en avant, on la sollicitait beaucoup. Je l'ai connue comme ça parce que avant de qu'elle prenne la place qu'elle a pris et tant mieux par rapport à son palmarès, bah elle était déjà un peu connue chez nous. Donc c'est quelqu'un que voilà.
Tu peux dire c'est où chez nous?
Ah, chez moi, j'ai grandi dans l'Oise, c'est voilà. Pas très loin, mais l'Oise, la Picardie,
Winterfell, les Stark, oui, c'est ce que tu connais.
C'est pas encore le Nord-Nord, tu vois, mais du coup, voilà, elle était par là-bas de Picardie, donc on la connaissait, ouais, et moi je la suivais, pourtant je suis pas très tennis, mais j'adorais tout ce qu'elle véhiculait comme message, et surtout quand elle a déclaré son homosexualité, j'ai trouvé ça hyper courageux. Très courageux. À une époque qu'il l'acceptait pas du tout, et bon, devant tout le monde, bien sûr, elle disait qu'elle était fière d'avoir dit ce qu'elle avait à dire, mais je pense que oui, derrière, elle devait souffrir énormément, et à cette époque-là, malheureusement, il n'y avait pas encore des coachs mentaux, donc je pense que ça a dû être très dur pour elle, ouais.
Non, non, ça a été très difficile, et d'ailleurs, pour moi, Amélie Mauresmo, elle incarne le lose-lose. J'en ai déjà parlé, et là, vu qu'il nous reste 2 minutes à envoyer la musique, je vais le placer. Qu'est-ce que j'appelle le lose-lose ? C'est quand une femme fait un record du monde, une super prestation, gagne une médaille d'or ou gagne des matchs, peu importe le sport. Vous avez deux réactions typiques en face. La première, c'est « c'est normal qu'elle gagne, c'est un homme ». Voilà. Donc Amélie Mauresmo fait partie des filles athlétiques, avant, et d'ailleurs, sur le début de la carrière de Serena et Venus Williams, clairement. Donc du coup, si on dit qu'Amélie Mauresmo gagnait, parce qu'elle a un physique de bonhomme, j'entends, ce qui est très très péjoratif et rabaissant.
Oui, mais du coup, elle n'était pas comparée justement à Justine Hénin, qui n'était pas comme elle.
Si, voilà,
il y a toujours la comparaison physique là-dessus. Oui,
Et le deuxième truc, pourquoi c'est loose-loose ? Donc là, vous venez de gagner votre épreuve, vous êtes forte, on vous dit que vous êtes déféminisée, vous avez le physique d'un bonhomme, c'est pour ça que vous avez gagné. Donc déjà, c'est très lâche et pas du tout objectif. Mais encore pire, si vous avez gagné mais que vous n'avez pas, c'est très physique, on dit, ouais, mais en même temps, les mecs, ils sont plus forts. Voilà. Et peu importe votre sport, ça marche.
Ouais.
C'est de l'athlétisme, ouais, mais les machins, ils courent plus vite. C'est du foot, ils jouent mieux.
Ouais, mais ça,
c'est impressionnant.
Ouais, mais en même temps, c'est facile que ce message il soit entendu et qu'il soit compris. Parce que, en fait, le problème, c'est que la majeure partie des sports qui sont diffusés, peu importe le sport, c'est tout le temps du féminin. Donc en fait, les gens, maintenant il y a Internet, donc c'est un peu plus facile, tu peux voir les choses, mais le problème c'est qu'à ce moment-là, de l'époque de Amélie Mauresmo, ils ne pouvaient pas aller regarder les performances des femmes. Donc en fait, ils pouvaient dire, oui, en fait, ça ne peut pas faire mieux, mais en même temps, ils ne voyaient pas tous les palmarès qu'il pouvait y avoir dans les différents sports qui étaient faits par des femmes, mais parfois les palmarès sont beaucoup plus intéressants,
beaucoup plus remarquables
que les hommes. Et du coup, tu n'avais pas accès à cette information, donc tu ne pouvais pas le savoir.
Oui, tu n'avais que le prisme de la télé, alors que maintenant, quand tu vas chercher d'autres sports, tu vois, Caroline Marine, la petite parenthèse, on a parlé la semaine dernière, le badminton, j'aurais jamais cru qu'elle ait une carrière aussi folle et qu'elle soit aussi célèbre en Asie, alors qu'en fait, elle fait du badminton. Et en plus, à Paris Jeux Olympiques, je n'ai jamais vu cette fille jouer et je ne connaissais même pas son nom. Alors que quand tu as Internet, j'ai accès, je suis parti regarder ce qu'elle faisait et j'étais très impressionné du retour.
Tu l'aurais jamais connue et tu n'aurais jamais vu son nom. Par contre, tu aurais vu peut-être des joueurs de badminton hommes qu'on aurait mis en avant, qu'on aurait diffusé sur la télé ou ce genre de choses, mais pas elle, en fait.
Tout à fait. Et bien, sur ce, on va réécouter de la musique. Et vive Amélie Mauresmo, vive la France, vive le tennis.
Vous écoutez Aligre FM 93.1. I would be complex, I would be cool. They'd say I played the field before I found someone to commit to. And that would be okay for me to do. Every conquest I had made would make me more of a boss to you. I'd be a fearless leader.
I'd be an alpha type when everyone believes ya. What's that like? I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again, 'cause if I was a man, then I'd be the man. I'd be the man. Put in the work, they wouldn't shake their heads and question how much of this I deserve. What I was wearing, if I was rude, could I be separated from my good ideas and power moves? And they would toast to me or let the players play. I'd be just like Leo in Saint-Tropez. I'm so sick of running as fast as I can, get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again, 'cause if I was a man, then I'd be the man. I'd be the man. I'd be the man. Would you like to brag about raking in dollars and getting bitches and models? And it's all good if you're bad, and it's okay if you're mad. If I was out flashing my dollars, I'd be a bitch, not a bother. They paint me out to be bad, so it's okay that I'm mad. I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quicker if I was a man. You know that. And I'm so sick of them coming at me again, coming at me again. 'Cause if I was a man,
et bonjour à nouveau auditeurs auditrices, j'espère que vous allez toujours aussi bien. Nous sommes sur 93.1, je suis toujours Cad, l'homme du 92, vous êtes bien dans l'émission championne. On vient d'écouter Taylor Swift, The Man. Je l'ai bien dit,
Ouais.
Ah là. Pour m'accompagner, j'ai toujours Sandrine avec moi. Et oui, jamais de sobriquet pour la troisième partie. Vous connaissez la règle. Et bien sûr, la régie toujours en place avec Diego Armando Maradona, qui est présent, bien sûr, depuis le début de l'émission. Il est là, il est fort, il est puissant. Avec peut-être un invité surprise, on ne sait jamais. Maintenant, nous étions partis sur le sport. Et on va parler de plusieurs choses de manière libre sur le sport féminin en général. On part d'où, on est où. Et maintenant que tu as fait plusieurs émissions sur le sport féminin, j'avais une question pour toi, Sandrine. Ouais, c'est ton interview.
Ah, c'est
ce
mon
soir.
Interview.
Ah oui, attends. Pourquoi pas. J'avais une question parce que je trouvais qu'elle était intéressante. Maintenant que tu as fait plusieurs émissions sur le sport féminin, que tu as écouté et découvert, comme on a dit tout à l'heure, des choses sur certaines athlètes que tu ne connaissais pas, comme on a découvert les mamies de la révolution du sport au XXe ouais. siècle avec Marie Surcouf, est-ce que du coup ça t'a changé ton point de vue sur le sport féminin? Est-ce que ça a changé un truc d'en apprendre autant, de voir qu'il y avait autant de choses qui n'étaient pas peu ou pas connues, à part si on cherche finalement?
Non, ça n'a pas changé mon point de vue, parce que mon point de vue est d'abord, effectivement, je mettrais beaucoup plus en avant le sport féminin, pas parce que je suis une femme, mais parce que je trouve qu'il n'est pas assez mis en avant. Et du coup, automatiquement, j'ai envie que ces femmes, elles aient la lumière qu'elles méritent. Mmh. Ça n'a pas changé mon point de vue. Par contre, ça m'a beaucoup plus énervée. Ça m'a plus mis en colère de voir que du coup il y avait ces femmes sublimes et avec des palmarès dingues et qu'en fait on leur donnait si peu de... on parlait si peu d'elles et du coup ça m'a mis en colère parce que si on avait mis plus en avant ce genre de femmes, peut-être que moi, petite, j'aurais pu voir, j'aurais pu avoir des images de personnes et les voir, que ce soit à la télé ou ailleurs, peu importe, mais j'aurais pu voir qu'en fait, les sports, ils n'étaient pas que pour les garçons, ils étaient à la fois pour les garçons et pour les filles. J'aurais pas ces barrières, j'aurais pas tout ça, et je pense que ça, oui, ça me met un peu en colère parce que je trouve pas ça juste. Moi, personnellement, mon père est enfin ma famille est très dans le foot, vraiment très très ancrée dans le foot, et j'ai voulu faire du foot, sauf que mon père voulait pas parce que tous les stéréotypes que t'as par rapport à ça, et maintenant il est revenu dessus, mais en fait je trouve ça dommage parce que à ce moment-là même lui n'avait pas la possibilité de voir que il était dans le foot, il était dedans, il voyait cette chose là et ça n'existait pas, lui même lui le voyait pas dans un club machin, il voyait pas des femmes qui jouent au foot, et donc pour lui ça paraissait pas normal que des femmes jouent au foot, et du coup il je lui en veux pas du tout, mais c'est parce que c'est fait avec son temps, mais malheureusement, enfin si on avait mis ces femmes-là en lumière, peut-être que du coup j'aurais pu, moi ou d'autres, avoir d'autres opportunités, et je trouve que oui, ça me met en colère, mais ça me change pas d'avis par rapport à ça.
La colère est un peu apaisée ou...
Non, parce que là on parle que du sport, mais malheureusement il y a tellement d'inégalités sur tellement de sujets que en fait non, je suis en colère pour plein de raisons, mais là pour le sport, ça m'a pas empêché de faire les sports entre guillemets que je pouvais parce que c'était des sports de filles, donc j'ai fait la natation parce que c'était pas genré de ce côté-là, mais c'était très bien, j'ai fait de la natation et j'en étais très contente, mais je trouve ça juste dommage que on permette pas l'accès à certains sports sous prétexte que je suis née femme, alors que enfin ça n'empêche en rien. Et au contraire, des fois dans les sports, il y a des femmes qui ont des palmarès beaucoup plus dingues. Et ça me refait penser à ce que tu m'avais dit. On parle, on fait la fête, on fait des trucs de fou parce que le Paris Saint-Germain, il a gagné. C'est très bien, je suis très contente pour eux. Mais en fait, les femmes, elles ont gagné 8 fois avant. En fait.
Ah, les Lyonnaises ont gagné 8
fois. Donc en fait, à un moment donné, quand est-ce qu'on a fait la fête et quand est-ce qu'on a fait des trucs? Et tu vois, là, l'écart, ça me met en colère. Parce qu'elle mérite. Elle mérite. Enfin, c'est 8 fois. C'est pas une fois, c'est 8 fois.
C'est 8, c'est 8.
Donc, ils sont où les gens à sortir dans la rue pour aller leur dire mais putain, t'as gagné, c'est top.
Sachant qu'en plus, ça reste un club français. Donc,
en plus, tu vois.
Normalement, il y a ce côté-là. Après, je suis d'accord avec toi qu'il y a un énorme problème de symbole, de mise en avant, d'icône. Qui, tu vois, par exemple, t'en parlais, j'en ai parlé vite fait, de sa fin de carrière, mais Suzanne Lenglen, moi, je croyais que c'était juste le nom d'un cours à Roland-Garros. C'est tout. C'est-à-dire que vous avez à Roland-Garros le cours central, donc là où on met la finale garçon généralement, et vous avez un cours qui est le Suzanne Lenglen, qui est le cours où il y a la finale fille. Pendant des décennies, et pourtant, moi, je suis un gars, donc j'ai plus, entre guillemets, accès au sport que les filles, dans la tête des gens, tu vois, je ne savais pas qu'elle existait, que c'était une vraie tenniswoman. Et avec le palmarès de fou, c'est-à-dire que je redis quelque chose de positif qui m'avait choqué, elle était amie avec René Lacoste, le René Lacoste dont la marque tout le monde porte, et qui était les mousquetaires, c'est-à-dire l'équipe de France de tennis qui était très forte dans ces années-là. Suzanne Lenglen était la seule femme à s'entraîner avec eux, et des fois à les battre. On lui a fait la réflexion en disant, en tant que femme, pourquoi tu t'entraînes avec des hommes? Elle a dit, j'en ai strictement rien à faire, parce qu'elle était tout feu, toute flamme, cette femme. Et du coup, elle a joué avec eux, c'était ses potes, et aujourd'hui, j'aurais jamais su qui c'était si un jour j'étais pas cherché l'information. Alors que ça reste, tous les ans on dit le cours Suzanne Lenglen, tous les ans on parle de cette femme.
Je savais même pas qui c'était. Je suis pas le tennis plus que ça, mais j'ai déjà vu Roland Garros à la télé et le nom a dû déjà arriver. Je ne savais clairement pas qui c'était.
Ben voilà.
Et pourtant, il y a un cours qui porte son nom. Ouais. Donc, on devrait savoir qui c'est. Enfin, tu vois, juste sur le principe de... si tu donnes le cours, le nom de quelqu'un à un cours qui est vu chaque année dans un championnat complètement ouf, qui est suivi par tellement de gens au niveau du tennis, faudrait qu'on sache qui c'est. C'est hyper important. C'est hyper intéressant, en plus.
Tu vois, René Lacoste, je savais c'était qui.
Je savais que c'était
un joueur de tennis, tout ça, machin. Mais tu vois, ça qui est bête, c'est que, en plus, Roland-Garros étant fourni par France Télévisions, généralement, ce serait bien de faire un sujet plus abouti que nous, tu vois, un vrai sujet sur cette dame, et tous les ans, on parlait. Après, je suis d'accord avec toi que ça manque de représentation. Même si, quand même, on va pas se mentir, il y a des avancées. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau des salaires, que ce soit les médailles du CIO, une fille ou un garçon qui gagne une médaille a le même prix. Les championnats du monde de presque tous les grands sports, en tout cas les principaux où il y a le plus d'argent, commencent à faire le cash prize. Même si sur les sponsors, c'est pas encore ça, puisqu'effectivement les sponsors vont plus aller vers des garçons parce que c'est sécurisant, hein, c'est plus facile de miser sur un footballeur que miser sur une joueuse de badminton, par exemple. Mais en tout cas, derrière, il y a quand même une avancée. Moi, je trouve qu'on va dans le bon sens, tu vois.
Oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi, il y a des avancées, mais le problème... Et c'est l'histoire et la société qui l'a prouvé et qui l'a montré. Le problème, c'est qu'il y a des avancées pour essayer. C'est très bien, c'est une très bonne chose. Mais il y a des avancées, mais ça va stagner jusqu'à ce qu'il y ait d'autres personnes qui disent hop hop hop. faut continuer là en fait. Et donc ça va remonter, mais ça va pas progresser sur la durée parce que ils vont se dire ça suffit.
Non,
mais ce que je veux te dire, c'est que sur certaines choses, ils vont dire voilà, on a fait suffisamment. Là, elles ont obtenu quelque chose. C'est vraiment pas l'égalité, mais elles ont obtenu quelque chose. Et donc, ça va aller. Sauf qu'en fait, il faut tout le temps le répéter. Et imaginez-vous que vous êtes sans arrêt en train de répéter les choses pour que ça avance. À force, ça peut être lassant.
Oui, mais tu vois, c'est là où tu as des icônes comme Megan Rapinoe, par exemple, ou Serena Williams aux États-Unis. Oui. Megan Rapinoe, ça a été la capitaine de l'équipe des USA de la Coupe du Monde en France, par exemple. C'est une grande icône là-bas. Elle se bat vraiment pour toutes les minorités et discriminations et les LGBTQIA+. Elle s'est battue pour avoir en équipe nationale que les filles sélectionnées qui représentent le drapeau américain aient le même chèque que les garçons qui représentent l'Amérique. Et ça a fait mouche parce qu'en Angleterre, c'est le cas. En Angleterre, l'équipe nationale féminine anglaise touche le même salaire que l'équipe nationale masculine anglaise.
Mais c'est très bien.
Et c'est en train justement de pousser les murs en Espagne. Ça commence à être le cas aussi. Voilà.
C'est très très bien. Je peux féliciter que ces athlètes ou que ces femmes qui se battent pour ce genre de choses. C'est très bien et j'en suis très contente. Par contre, je reste un peu dubitatif sur le principe que rien ne les empêche d'augmenter les hommes de l'autre côté et qu'elles ne le sachent pas et qu'à un moment donné, la différence soit de nouveau là. C'est juste ça, moi, qui me pose un problème. C'est que du coup, quand ils vont augmenter les hommes, ils ne vont pas penser à augmenter les femmes. Et tu vois, il y a encore du travail. C'est très bien, on avance, oui. On progresse. Mais malheureusement, il y a encore des personnes, souvent dans les hautes sphères des sports et tout ça, souvent, surtout en plus les sports où il y a beaucoup d'argent, dans les hautes sphères comme ça, ils sont toujours un peu traditionnalistes, il ne faut pas changer. Ils sont sexistes, ils sont tout ça, et du coup, nous, on va pas faire progresser les femmes de la même manière. Et il faut.
Oui.
Voilà, ça va prendre du temps, mais à un moment donné, je pense qu'on arrivera à quelque chose de beaucoup mieux.
Ben justement, j'allais y venir. Quand tu as des gens comme Amélie Mauresmo qui deviennent justement présidente du comité de Roland-Garros, Michel Mouton qui travaille, qui est la
ça
seule femme.
Ça fait partie mal, Michel Mouton.
Tu vois, la seule femme vice-championne du monde de rallye qui, elle aussi, travaille à la Fédération internationale automobile. Moi, je pense que quand ces femmes et des hommes plus jeunes qui auront compris qu'elles peuvent faire du sport et ça pose aucun problème, vont arriver à des postes à responsabilité, ça va changer. Et il y aura aussi, comme je l'ai déjà dit, parce que c'est un bras de fer, le nerf de la guerre, l'argent. Quand les marques comprendront que... et je parle des marques, après je parle de diffusion, mais c'est les deux cas, c'est le même principe, vous allez voir. Je suis une marque d'un grand équipementier. Quand je sais que j'ai pas beaucoup de budget et que ça sera moins cher de payer une fille et de la mettre en avant parce que Cristiano Ronaldo ou Messi me coûtera trop cher pour parler d'athlètes internationaux ou Lewis Hamilton, eh ben en fait, les marques vont le faire. C'est-à-dire, en fait, c'est moins cher et c'est plus facile de mettre en avant les filles parce que il y a un côté économique. Et pareil pour la diffusion. Quand les gens vont dire, je veux diffuser la Coupe du Monde et ça coûte de football et ça coûte des millions, alors que diffuser... Et bientôt, l'Euro, mesdames et messieurs, de football féminin arrive cet été. N'hésitez pas à regarder.
Beaucoup de billets ont été vendus en très peu de temps. Ils sont sur le cul, justement, parce que ça s'est bien vendu. Voilà. Et tant mieux. Et parce que c'est intéressant de voir ce sport.
Et du coup, d'ailleurs, je suis très impatient d'aller voir l'équipe jouer.
Moi aussi.
L'équipe de France, je peux faire un bon star. Bref, et donc...
Ce ne sera pas la France que je soutiendrai, mais je regarderai.
Tu peux soutenir l'Italie, toi. mais voilà, quand ils vont voir que ça coûte moins cher de diffuser, effectivement, les matchs de Ligue des champions des filles, l'Euro des filles et la Coupe du monde des filles, parce que les gens sont friands, veulent voir du sport. C'est ça en fait le truc que les diffuseurs n'ont pas compris. Les gens veulent voir du sport en fait. Mais peu importe que ce soit un garçon ou une fille, ils veulent voir du sport. Donc quand ils vont comprendre que c'est moins cher et que c'est plus intéressant, il va y avoir une bascule. Alors ça prendra 5-10 ans, je suis d'accord. Mais il va y avoir une bascule, c'est sûr et certain.
Je suis totalement d'accord avec toi, sauf que en fait, ok, il y a une première chose, c'est important pour eux en tout cas de savoir que du coup ça va coûter moins cher et donc automatiquement ils vont aller plus vers ce type d'achat que vers un autre. Ok. Mmh. Mais ils vont pas acheter n'importe quoi parce qu'il faut derrière que ça soit regardé et qu'il faut que ça soit vu. Donc, d'accord. En fait, ça va limiter les choix sur tout le panel qu'il pourrait y avoir. Ils vont aller d'abord vers ceux qui vont leur apporter le plus d'argent.
Évidemment.
Dans un premier temps. Donc, faut qu'il y ait des gens. J'avais regardé, je crois que j'avais vu sur les réseaux sociaux, je crois que c'est aux États-Unis. C'est une femme qui a ouvert un bar et qui a mis que du sport féminin à la télé. Que ça. Premier mois, elle a ouvert, elle a fait 1 million de recettes. Quoi.
Voilà. Redis la recette.
1 million.
Voilà. Donc déjà t'as ça. Et moi je pense que on en avait déjà parlé la dernière fois avec Elodie. Le billet féminin, ça arrivera.
Faut que ça arrive.
Ouais. Et ça va tout casser. Et en fait pour moi je pense que c'est ça qui est l'avenir du sport féminin. C'est que petit à petit les décideurs vont changer. Petit à petit ils vont voir que c'est moins cher. Petit à petit l'argent aussi fait qu'elles se structurent mieux. Elles sont de mieux en mieux entourées comme t'as dit. Il y a du coach mental. Il y a des vraies infrastructures pour faire du sport.
Je suis
donc,
totalement d'accord.
Donc ça se professionnalise et ça va changer. Faut juste laisser le temps.
Je suis juste d'accord. Je suis d'accord avec tout ce que t'as dit. C'est juste que oublie pas. oublie pas, ne serait-ce que pour parler que du foot, on a mis combien de temps, nous, en tant que femmes, à obtenir le fait de pouvoir avoir une compétition qui est retransmise? Combien de temps entre le foot, entre les hommes et les femmes? Donc en fait, ça va arriver, mais ça va arriver d'ici combien de temps? Et c'est ça en fait le problème, c'est que...
Après,
c'est
vous que, avez le droit de vote que depuis 1946, voilà, ça va, voilà. En France en tout cas.
Donc, et encore, on s'est battu pour l'obtenir.
Oui, oui, je suis
donc,
d'accord avec
en fait,
ça.
C'est juste qu'on progresse, je voudrais juste pas que ça stagne à un moment donné.
Non, après, c'est, comme tu as dit, c'est de la lutte et ça va être du bras de fer. Mais moi, je pense que... D'ailleurs, je le dis souvent, si les gens voulaient miser sur quelque chose, miser sur le foot féminin. Alors oui, ça prendra 5, 10, 15 ans, peut-être même 20 s'il y a des récalcitrants. Mais dans 20 ans, les décideurs qui sont misogynes, ils seront à la retraite ou morts. Donc, ça bougera, ne vous inquiétez pas. C'est comme ça, c'est la loi. C'est la loi de la survie. Il nous reste 2 minutes à peu près jusqu'à 57. Voilà, eh bien, c'est le moment des remerciements. Eh bien, merci Sandrine d'avoir été là cette saison. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci de dire... Oui, mais je suis d'accord avec toi, Cad. Mais tu vois, c'est un grand moment. Merci beaucoup. Merci évidemment à LYFM de nous laisser l'opportunité de Je connais Dardar Motus, toi.
Non.
Oh, c'est un dessin animé des années 80. Je vous invite à regarder. Le générique est magnifique. Bref, comme je disais, je bégayais. Merci à LYFM de nous laisser évidemment faire cette émission. Merci à la régie, toujours présent. Diego Armando Maradona, il est là, il est présent. Pour les comptes à suivre, championne d'émission, sur Instagram. Vous avez le compte aussi de Emma.Oudiou, que tu m'avais conseillé, qui est une ancienne sportive
olympique
et qui effectivement fait beaucoup de contenu sur le sport féminin. C'est très intéressant. Moi, j'ai Dounia Mesli, qui elle est sur Twitter. C'est une journaliste qui a fait du foot à un certain niveau, mais elle gère le foot. Elle avait un média pour lequel elle travaillait qui s'appelait Cœur de foot, qui malheureusement, faute de retour, s'est arrêté. Et cette année, elle était avec tout le PSG. J'étais très content pour elle parce que le PSG est allé jusqu'au bout de la Ligue des Champions. Elle a suivi le PSG toute cette saison. Donc je suis très content pour elle, elle était très heureuse parce qu'elle est parisienne pour le coup. La PETA, évidemment, les animaux. La page quiz de foot, évidemment, de notre ami Damien, bien sûr, sur Face de Chèvre, comme on dit. Et il nous reste une minute, tu peux dire ce que tu veux, mais à 57, le micro se coupe comme une batterie.
Non, je voulais te remercier, toi, de m'avoir laissé la possibilité de pouvoir parler et de pouvoir faire en sorte que je sois un petit peu moins en colère quand je parle de ce sujet-là qui me tient à cœur du féminisme, disons-le, et de parler surtout de mettre en avant ces championnes et ces superbes athlètes, vraiment.
Mais c'est moi, je te remercie de venir parce que de toute façon, il me fallait bien que j'ai des femmes au micro et je suis très content, comme je l'ai dit la semaine dernière, d'avoir réussi à débloquer le fait que n'importe quelle femme peut parler de sport à partir du moment où tu connais le sujet. Je vois pas pourquoi les filles pourraient pas parler de sport, même si c'est difficile encore à déconstruire pour certaines et je comprends la légitimité de tout ça, mais
exactement.
Pour moi...
On se sent pas légitime de...
Voilà. Et bien sur ce, mesdames et messieurs, des bisous, vive la France, vive la République, vive le général. Générique.
Écoutez à LYFM 93.1.